C'est le journal avec Soizic Pelé. Bonjour Soizic.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Troisième réveil difficile en Allemagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Après des inondations meurtrières, des sinistrés en deuil doivent désormais rentrer chez eux et faire le bilan des dégâts. Il y a les pros et les anti. D'abord, les pros démission du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, mis en examen hier, mais toujours garde des Sceaux ce matin, et puis ceux qui le soutiennent. Et puis les pros et les anti-vaccins, rencontre avec Isabelle dans ce journal, prête à sacrifier ses loisirs pour éviter à tout prix cette fameuse piqûre.
France Inter.
Nettoyer, déblayer des villes entières ravagées par les eaux.
Trois jours après les terribles inondations qui ont frappé plusieurs pays dans l'ouest de l'Europe, notamment l'Allemagne, près de 130 morts au total selon le dernier bilan, et des rescapés qui retrouvent, eux, leur maison et constatent les dégâts, comme Niklas, un Allemand de 25 ans que vous avez rencontré, Thibault Lefebvre.
C'est la première fois depuis la catastrophe que Niklas, 23 ans, revient dans son immeuble.
On a essayé de sortir l'eau et la boue.
Il habite avec sa copine un des trois appartements qui donnent sur une route entre la rivière Aar, longée par une voie ferrée, et des vignes à flanc de coteau.
L'eau était tellement haute et tellement rapide, c'était irréel sur le moment.
Et évidemment, jamais il n'oubliera que cette nuit, l'eau est montée en seulement quelques minutes.
La personne qui vivait ici, elle était en train de dormir, il était minuit, l'eau arrivait de la rivière Aar, on a essayé de la réveiller, elle est immédiatement sortie, nous avons sauvé cette personne.
Au petit matin, Niklas et ses voisins se sont mis à l'abri sur les hauteurs de la ville, et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que leur vie était en train d'être engloutie.
Nous étions au sommet de la montagne, le soleil se levait, et nous avons regardé en bas et vu les immeubles, les torches, les gens sur les maisons qui étaient sur les toits. C'était complètement fou.
Fou et triste, puisqu'hier matin, Niklas a appris que trois de ses voisins, qui habitaient un peu plus loin dans la rue, sont morts cette nuit-là.
Des morts parfois en direct, sous les yeux impuissants des riverains. Franco est restaurateur à Hohiskirchen, au sud de Cologne. Là-bas, au moins 17 personnes ont péri.
C'était juste devant, on ne pouvait rien faire car l'eau était à 2 mètres. C'était comme à la guerre, il y avait peu de chances de survie. Elles se sont noyées et personne n'a pu les aider. Ça fait 2 jours que je ne dors plus. Je repense aux hurlements que j'ai entendus, aux images que j'ai vues. Il n'y a pas pire, c'est dans la tête et ça ne veut plus sortir. C'est comme un cauchemar. Chacun est content d'avoir survécu, mais comment vivre? C'est la grande question, je ne sais pas comment je tiens encore.
Franco, au micro de Sébastien Baer pour France Inter. Près de 110 morts en Allemagne, 100 000 foyers toujours privés d'électricité. Le Luxembourg et les Pays-Bas ont aussi été touchés. La Belgique fait également le bilan. Triste bilan, au moins 20 décès selon les derniers chiffres du gouvernement. Les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus.
À 7h03, cette question, Soizic Pelé. Démissionnera, démissionnera pas?
En tout cas, Éric Dupond-Moretti est toujours ce matin ministre de la Justice au lendemain de sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Une première, on le rappelle, pour un ministre de la Justice en exercice. Mais la question de la démission fait encore débat au sein du monde politique. Soutien de la majorité, confiance renouvelée de la part du président de la République et du Premier ministre, alors que l'opposition, surtout à gauche, réclame le départ de l'actuel garde des Sceaux, comme Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat.
Bien sûr, cette mise en examen n'est pas un acte d'accusation. La justice fera son travail, mais on estime très simplement qu'il ne peut pas y avoir de doute sur la capacité à gouverner d'un membre du gouvernement qui a été mis en examen. Éric Dupond-Moretti porte une loi importante sur la justice. Son image, de fait, aujourd'hui, est fragilisée. Et je crois que dans cette période, nous avons besoin d'une République forte. Et je pense qu'en conscience, M. Dupond-Moretti devrait présenter sa démission.
Mais hors de question de démissionner, répond la députée En Marche, Naïma Moutchou.
La mise en examen dans l'état de droit en France, ça n'est pas la culpabilité. Vous êtes présumé innocent tant qu'un tribunal ne vous a pas déclaré coupable. Et j'ai longtemps combattu cette jurisprudence, en quelque sorte, Balladur, Bérégovoy, qui consiste à dire, parce qu'il y aurait des soupçons, eh bien, on vous met sur le banc de la société, vous êtes marginalisé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je dis que ces positions de posture qui consistent à dire il faut qu'il démissionne parce qu'il est dans l'autre camp, elles risquent un jour ou l'autre de se retourner contre ceux qui les ont prises.
Ils répondaient tous les deux à Élodie Forêt. 60 000 pèlerins sont en train d'arriver à la Mecque pour le week-end. 60 000, c'est le nombre maximum autorisé cette année. Covid oblige. Et ça ne s'arrête pas là. L'eau sacrée sera distribuée par un robot. Les hôtels seront accessibles avec une carte sans contact. La distanciation sociale devrait être particulièrement surveillée. Rien à voir, évidemment, avec le Hajj habituel, Claude Guibal.
Il y a un mois, la nouvelle avait provoqué une onde d'amertume à travers le monde musulman. 60 000 personnes seulement autorisées à accomplir le Hajj, uniquement des résidents, des citoyens saoudiens. Les aspirants pèlerins n'ont eu que 10 jours pour s'enregistrer en ligne sous réserve de remplir les conditions. Avoir entre 18 et 65 ans, être sans maladie chronique et être vacciné qu'avec des sérums validés par les autorités saoudiennes, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca et Pfizer uniquement. D'ordinaire, plus de 2 millions de personnes accomplissent chaque année ce rituel. Le cinquième pilier de l'islam, ce pèlerinage, souvent le voyage d'une vie pour lequel on épargne. Une manne économique pour le royaume, 13 milliards de dollars l'an dernier, un secteur d'emploi essentiel en Arabie Saoudite avec les hôtels, les restaurants, un écosystème qui dépasse les frontières de l'Arabie avec ses milliers de voyagistes spécialisés à travers le monde qui aujourd'hui se voient obligés de rembourser leurs clients. Mais un risque que l'Arabie Saoudite préfère prendre plutôt que d'associer l'image du pèlerinage à celle d'un gigantesque foyer de contamination mondiale.
Le Covid qui s'invite comme on le redoutait. En revanche, au JO de Tokyo, une semaine avant leur coup d'envoi à huis clos, justement pour éviter une catastrophe sanitaire, eh bien, un premier cas a été détecté au village olympique, annoncent les organisateurs. Pas de précision encore sur la délégation touchée, ni sur le profil sportif ou membre de l'encadrement.
Et en France, Oisic, l'épidémie reprend aussi. Et
les contaminations ont doublé, plus de 10 000 ces dernières 24 heures contre moins de 5 000 il y a une semaine. Et la solution martelée par le gouvernement, c'est, vous le savez bien évidemment, la vaccination qui bondit, elle aussi, pas moins de 900 000 injections hier, un record pour profiter des bars, des restaurants, des voyages, des musées, du théâtre, quand le pass sanitaire ne sera plus une option. Et pourtant, il y a encore les réfractaires, ceux qui préfèrent faire une croix sur cette vie-là que de passer sous l'aiguille. Isabelle habite à La Rochelle, elle a décidé d'adapter son quotidien, elle le raconte à Alice Cachaner.
Isabelle a la cinquantaine, de sa voix douce et souriante, elle l'affirme, elle n'est pas complotiste.
Je suis pas anti-vaccin, c'est pas mon combat.
Pour autant, elle n'est pas convaincue par les vaccins anti-Covid. Beaucoup de doutes, d'interrogations et surtout un sentiment de révolte en évoquant le pass sanitaire.
Je ne céderai pas à cette pression parce que c'est une pression. Si demain on doit avoir un pass sanitaire pour rentrer dans un restaurant, je n'irai pas au restaurant.
Même chose pour les activités culturelles qui seront moins accessibles.
Je pourrais peut-être plus rentrer dans un musée, bah tant pis, je n'irai plus dans un musée. Heureusement qu'on a aujourd'hui Internet qui nous permet de se cultiver aussi d'une autre façon.
Pour éviter les grandes surfaces, cet adepte de la décroissance se tournera vers les commerces de proximité, les marchés, les petits producteurs. Une vie différente, en accord avec ses valeurs.
Ça m'invite à faire des choix, et des choix effectivement peut-être plus sobres, de revenir à des choses plus essentielles. Du coup, ça permet en fait d'alléger ma vie.
Il faudra également de la créativité à Isabelle pour repenser son métier de coach en entreprise.
Professionnellement, je vais continuer à faire du à distance. Et puis après d'être sur des petits groupes, les voyages, il n'y en aura plus.
Fini les stages à l'étranger. Et si sa clientèle se fait rare, cette travailleuse indépendante n'exclut pas de changer de métier.
Le reportage d'Alice Cachaner pour France Inter.
On termine sur la route du Tour de France.
Un contre-la-montre pour cette avant-dernière étape, un contre-la-montre dans les vignes, un peu plus de 30 km entre Libourne et Saint-Émilion, avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées demain. Un Tour de France marqué par les Slovènes. Peu de suspense d'ailleurs quant au grand gagnant. Il devrait s'appeler Tadej Pogacar, en jaune depuis quasiment le début. Hier, c'est un de ses compatriotes qui a gagné l'étape. Alors, on va plutôt se pencher sur le top 10 et le meilleur français au général, Guillaume Martin, bien décidé à conserver sa 8e place au micro d'Anthony Rimbaud.
On ne sait jamais ce qui peut se passer sur le dernier chrono du Tour. Sur le papier, ça va être une bataille face à Peyo Bilbao pour essayer de garder ma 8e place. Il est un peu meilleur que moi en chrono et le chrono est long. Donc, et l'écart est faible, j'ai juste une minute d'avance. Donc ça risque d'être difficile, mais voilà, on sait jamais. Ça dépend vraiment de la forme du moment et on sait aussi pas ce qui peut se passer devant. Voilà, si j'ai les mêmes jambes qu'à Laval et que je m'investis pleinement, ça peut être jouable de garder cette 8e place.
Guillaume Martin, avant le départ de l'avant-dernière étape de ce Tour de France, un contre-la-montre, on le rappelle, entre Libourne et Saint-Émilion.
C'était le journal de Soizic Pelé. Merci Soizic. On prend des nouvelles du temps de ce samedi.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Pierre Hameau, beaucoup de nuages au réveil sur la moitié est du pays.
Oui, Amélie, la masse d'air a du mal à s'assécher et la grisaille sera au menu de votre matinée, des Hauts-de-France à la région Grand Est, de l'Est parisien à la région Centre et de la Bourgogne-Franche-Comté au nord du massif alpin. Cet après-midi, ces nuages laisseront petit à petit une place aux éclaircies, parfois tardivement. Et puis quelques averses de faible intensité sont attendues près des frontières de l'Est, des averses prenant un caractère orageux avant la fin de la journée du côté de la plaine d'Alsace. En revanche, vous allez cet après-midi profiter d'un après-midi estival et ensoleillé du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne, des Pays de la Loire au Grand Sud-Ouest et du Languedoc-Roussillon à la région PACA. Et puis Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 80 km par heure.
Mais c'est ça qui vous perturbe, Jean-Pierre, c'est que les températures sont en hausse, l'été arrive.
Oui, c'est ça, on n'est pas habitué, les maximales vont quand même reprendre des couleurs, en particulier dans la moitié nord du pays. À compter 25 degrés par exemple à Lille, 26 à Paris et Strasbourg, on attend jusqu'à 27 degrés à Rennes, comme à Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 28 à Nice, 30 à Toulon. Et puis on ira jusqu'à 32 à Perpignan.
Merci Jean-Pierre Hameau de Météo France.